Louise Michel, L'éducation et la liberté.
Le vent qui soufflait dans ma vieille ruine, ces quatre tours carrées du nid de mon enfance au château de Vroncourt, les vieillards qui m'ont élevée, la solitude, la grande liberté de mes jeunes années, les légendes, les bribes de science braconnées un peu partout, tout cela devait m'ouvrir l'oreille à toutes les harmonies, l'esprit à toutes les lueurs, le cœur à l'amour et à la haine. Tout s'est confondu dans un seul chant, dans un seul rêve, dans un seul amour. La Révolution.
22 janvier 1905. Paris, Gare de Lyon, 10h du matin. Environ 10 000 policiers ont été mobilisés. Le cercueil, arrivé de Marseille, est recouvert d'un drapeau rouge et placé sur un char de 8e classe, sans draperie. Dans le hall de la gare, le chant de l'Internationale s'élève. La police s'élance, le chant s'amplifie.
Les cris de « Vive la Commune !» s'élèvent de toutes parts.
La police ne peut plus retenir la foule. Les anciens de la Commune, les rescapés des bagnes et de la déportation, et tous les camarades de combat, églantines à la boutonnière, rubans ou écharpes rouges, viennent saluer une dernière fois la grande citoyenne.
La foule immense, large comme un fleuve, s'étend, grossit, et jusqu'au soir envahira les boulevards au passage du cercueil. Dans le cimetière de Levallois, les allées sont noires de monde. Les arbres croulent sous les grappes humaines. Claquent au vent, mêlés, le drapeau rouge de la Commune et le drapeau noir des révoltes ouvrières. Louise Michel recueille l'immense hommage du peuple de Paris.
Quand la foule, aujourd'hui muette, comme l'océan grondera, qu'à mourir elle sera prête, la Commune se lèvera. Nous reviendrons, foule sans nombre, nous viendrons par tous les chemins, spectres vengeurs sortant de l'ombre, nous viendrons, nous serrant les mains. La mort portera la bannière, le drapeau noir crêpe de sang, et pourpre fleurira la terre, libre sous le ciel flamboyant.
Pendant tout le temps de la Commune, de mars à mai 1871, je n'ai passé chez ma pauvre mère qu'une seule nuit. Ne me couchant, je pourrais dire jamais. Je dormais un peu n'importe où, quand il n'y avait rien de mieux à faire. Bien d'autres en ont fait autant. Chacun s'est donné tout entier de ceux qui voulaient la délivrance. Il le fallait.
Il le faut. La femme, cette prétendue faible de cœur, sait plus que l'homme dire « il le faut ». Elle se sent déchirée jusqu'aux entrailles, mais elle reste impassible. Sans haine, sans colère, sans pitié pour elle-même ni pour les autres. Il le faut, que le cœur saigne ou non. Ainsi furent les femmes de la Commune. Au jour de mai, durant la semaine sanglante, elles élevèrent et défendirent la barricade de la Place Blanche. 120 femmes environ. Elles tinrent jusqu'à la mort.
J'échappais toujours à tout, je ne sais comment. Enfin, ceux qui voulaient m'avoir emmenèrent ma mère pour la fusiller si on ne me trouvait pas. J'allais la faire mettre en liberté en prenant sa place. Après m'avoir dit qu'on me fusillerait le lendemain de mon arrivée au dépôt, on me dit que ce serait pour le soir, puis pour le lendemain encore. Et je ne sais pourquoi on ne le fit pas, car j'étais insolente, comme on l'est dans la défaite avec des vainqueurs féroces.
De la prison de Versailles, le 2 décembre 1871, une lettre adressée au général Appert.
Monsieur, si on ne veut pas me juger, on en sait assez sur moi. Je suis prête et la plaine de Satory n'est pas loin. Vous savez bien, tous, que si je sortais vivante d'ici, je vengerais les martyrs. Vive la Commune ! Louise Michel. On ne voulut pas m'envoyer au poteau de Satory, le camp militaire près de Versailles où l'on fusillait, et je suis encore là, voyant la mort fauchée autour de moi. Personne ne sait, parmi ceux qui n'ont point éprouvé ce vide immense, quel courage il faut pour vivre. Allons, point de faiblesse. Oui.
Vive la Commune morte.
Vive la Commune morte.
Vive la Révolution vivante.
Vive la Révolution vivante.
Que de prison, ai-je dit quelque part dans mes mémoires. Oh oui, que de prison. du bastion 37 à la Nouvelle-Calédonie sous le matricule 2182, en passant par Satori, où les femmes de mes amies prisonnières ne craignirent pas de m'embrasser, quoique je les eusse prévenues qu'on allait me faire mon affaire, c'était risquer leur vie. Les chantiers de Versailles, La Rochelle, Clermont, Saint-Lazare.
À la prison de Saint-Lazare. J'ai détruit un manuscrit de mes mémoires, ne croyant pas qu'un seul être, même comme étude, dût tenir autant de place.
Cela m'a fait comprendre que le fauve blessé se ronge les pattes dans l'agonie.
Le poêle était ardent et j'avais froid quand j'ai jeté tout vif les feuillets à la flamme pour qu'elle les dévorât. Le manuscrit, ouvert sur le brasier, roulait les angles de ses feuilles noircies, estompées de rouge. Une belle flamme aux langues fourchues les léchait. Tout ce que j'avais trop longuement raconté y battait des ailes pour ne plus laisser que cendres. La flamme, comme une bête avide, dévorait, et je donnais la pâture à la bête. Des fragments noirs, pareils à des papillons, voltaient dans la chambre au souffle de la fenêtre ouverte.
Je me rappelais qu'au jour de mai 71, il y en avait comme cela plein l'air quand Paris flamba.
Les souvenirs, comme les tombes, fleurissent.
Souffle d'avril montant de la terre, gonfler les bourgeons printaniers pour les fructidors de l'humanité. Souffle d'hiver, emporter les derniers mensonges, les derniers haillons du passé, qu'on cesse de bâtir avec les pierres arrachées aux bastilles du passé des forteresses plus hautes, que tout cela disparaisse dans le matin qui se lève, dans la prise de possession de la terre par l'humanité. Ce ne sont pas les gémissements des peuples en détresse qui changeront rien, c'est la révolte.
Je rêve pour après le temps où tous auront du pain, le temps où la science sera le cordon bleu de l'humanité. La science et la liberté. Comme c'était bon et vivifiant ces choses-là, respirer sous l'Empire au cours du soir de la rue Hautefeuille dans ce petit coin perdu de Paris. Il y avait là une véritable pépinière de bas bleus les deux dernières années avant 1871. Prose, vers et motifs s'en allaient au vent. Nous sentions tout près le souffle du drame dans la rue, le vrai drame, celui de l'humanité.
La petite salle débordait de vie, de jeunesse. On vivait en avant, bien en avant, au temps où tous auront une autre existence que celle des bêtes de somme dont on utilise le travail et le sang. 5 ou 6 ans avant le siège de Paris, déjà, c'était une retraite propre, où quelquefois les cours d'histoire grondaient en marseillaise, et cela sentait la poudre.
Comment trouvions-nous le temps d'assister à ces cours plusieurs fois par semaine? Il y en avait de physique, de chimie, de droit même. On y essayait des méthodes. Comment pouvions-nous, outre nos propres classes, faire nous-mêmes des cours? Je n'ai jamais compris que le temps pût être aussi élastique. Plusieurs d'entre nous avaient repris à bâton rompu des études pour le baccalauréat. Une rage de savoir nous tenait.
À ma classe d'Audeloncourt, où je commençais ma carrière d'institutrice en 1853, école libre, comme on disait, car sinon il eût fallu prêter serment à l'Empire, on chantait la Marseillaise avant l'étude du matin et après l'étude du soir. La strophe des enfants, « Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus », était dite à genoux. Malgré les dénonciations de quelques imbéciles sur mes opinions politiques, ma classe marchait bien. D'autant mieux que j'avais le zèle de la première jeunesse. Je la faisais avec passion. Les amis de l'ordre qui daignaient s'occuper de moi me disaient rouge, c'est-à-dire républicaine. Ma manière de voir les gênait. Ces accusations étaient parfaitement vraies.
Allons, allons. L'art pour tous, la science pour tous, le pain pour tous. L'ignorance n'a-t-elle pas fait assez de mal? Et le privilège de savoir n'est-il pas plus terrible que celui de l'or? Les arts font partie des revendications humaines, il les faut à tous. Et alors seulement le troupeau humain sera la race humaine. Allons, allons, que chaque main prenne un flambeau et que l'étape qui se lève marche dans la lumière.
En voyant depuis longtemps la supériorité des cours adoptés dans les collèges sur ceux qui composent encore l'éducation des filles de province, j'ai eu, bien des années après, l'occasion de vérifier la différence d'intérêt et de résultat entre 2 cours faits sur la même partie, l'un pour les dames, l'autre pour le sexe fort.
Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. En attendant, la femme est toujours, comme le disait le vieux Molière, le potage de l'homme.
Le sexe fort descend jusqu'à flatter l'autre en le qualifiant de beau sexe.
Il y a fichtre longtemps que nous avons fait justice de cette force-là. Et nous sommes pas mal de révoltés, prenant tout simplement notre place à la lutte, sans la demander.
S'il fallait la demander, vous parlementeriez jusqu'à la fin du monde.
Pour ma part, camarade, je n'ai pas voulu être le potage de l'homme. Et je m'en suis allée à travers la vie, avec la vile multitude.
Elle aussi, la vile multitude. On la flatte à ses heures. On l'appelle le peuple roi.
Et si le diable existait, il saurait que si l'homme règne menant grand tapage, c'est la femme qui gouverne à petit bruit. Mais tout ce qui se fait dans l'ombre ne vaut rien. Ce pouvoir mystérieux, une fois transformé en égalité, les petites vanités mesquines et les grandes tromperies disparaîtront. Alors, il n'y aura plus ni la brutalité du maître, ni la perfidie de l'esclave.
Du reste, les femmes, quand la chose vaut la peine de se battre, n'y sont pas les dernières. Le vieux levain de révolte qui est au fond du cœur de toutes fermente vite quand le combat ouvre des routes plus larges. Jamais je n'ai compris qu'il y eût un sexe pour lequel on cherchât à atrophier l'intelligence, comme s'il y en avait trop dans la race.
Les filles, élevées dans la niaiserie, sont désarmées tout exprès, pour être mieux trompées. C'est cela qu'on veut. Et tant qu'on élèvera les femmes à se faire adorer comme des idoles, elles auront le sort de jouets. Quelquefois, les agneaux se changent en lionnes, en tigresses, en pieuvres. C'est bien fait. Il ne fallait pas séparer la caste des femmes de l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas des marchés où l'on vend dans la rue, aux étalages des trottoirs, les belles filles du peuple, tandis que les filles des riches sont vendues pour leur dot? L'une la prend qui veut, l'autre on la donne à qui on veut.
Et le salaire des femmes, parlons-en un peu.
C'est tout simplement un leurre.
Et les premiers groupements du droit des femmes?
Au droit des femmes. Comme partout où les plus avancés d'entre les hommes applaudissent aux idées d'égalité des sexes, je pus remarquer, comme je l'avais toujours vu avant, et comme je le vis toujours après, que malgré eux, et par la force de la coutume et des vieux préjugés, les hommes auraient l'air de nous aider, mais se contenteraient toujours de l'air. Prenons donc notre place, sans la mendier.
Il faut tout, tout délivrer. Les êtres et le monde, les mondes peut-être, qui sait, sauvages que nous sommes.
La sève qui monte à notre époque de transition est puissante. Nous, les derniers d'une époque, nous essayons les semis qui doivent lever au premier soleil. Nous disparaîtrons, enveloppés de notre époque comme d'un suaire. Et quand sous le linceul des eaux on trouvera l'Atlantide sombrée comme un navire, elle ne sera pas plus morte que nous, d'hier ou d'aujourd'hui.
Quelques feuillets de poésie, écrites à l'encre rouge. À mes frères, prison de Versailles, 8 septembre 1871. Passez, passez, heures, journées, que l'herbe pousse sur les morts. Tombez, choses à peine nées, vaisseaux, éloignez-vous des ports. Passez, passez, ô nuit profonde, émiettez-vous, ô vieux mont. Des cachots, des tombes, des ondes, proscrits ou morts, nous reviendrons. Nous reviendrons, foule sans nombre, nous viendrons par tous les chemins, spectres vengeurs sortant de l'ombre, nous viendrons, nous serrant les mains.
À l'occasion du 50e anniversaire de la Commune, en 1921, la grande journaliste Séverine rendait un vibrant hommage à Louise Michel dans le journal Le Populaire du Centre. Elle rapporte combien la vue de cette femme exerçait une singulière emprise. N'avait-elle qu'à paraître pour qu'au battement de son vaste cœur répondît la palpitation de l'innombrable cœur du peuple? Il se reconnaissait, il se retrouvait en elle comme dans le plus fidèle et le plus limpide des miroirs.
Et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse, et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Comme faucheur rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et ces 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de Vallès, ils en étaient tout bêtes. Fait est qu'on était un fiertat à lui servir d'escorte. Ce qui vous prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ce qui vous prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte.
Louise Michel, L'éducation et la liberté. Lecture préparée par Nathalie Procoris, d'après les mémoires de Louise Michel, avec Cybèle Castoriadis et Nathalie Procoris. Enregistré au studio Gounouk par Stéphane Sapis en mars 2021.